Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour ce 18 février 2026. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, on est quasiment à la fin de la saison des REER. Quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis notre dernier épisode?
Oui, donc il reste à peu près 12 jours pour cotiser à votre REER. S'il vous plaît, ne soyez pas la dernière personne qui nous appelle le 2 mars à 4 heures. Au niveau des marchés boursiers, semaine un petit peu plus difficile. On a le secteur des ressources là, qui a moins bien fait cette semaine. La chaîne elle a un peu débarqué du côté du secteur orifère. Le pétrole aussi, ça n'arrache un peu. Donc, le TSX est en baisse de 1,1%. Ceci dit, bon, ça c'est l'indice, là, quand on fouille à l'intérieur de l'indice, il y a quand même plein d'entreprises qui performent bien. Je peux penser à des titres comme Couche-Tard, par exemple, qui a moins, tu sais, depuis un an ou deux, là, c'était plus tranquille, là, 12% de hausse cette année. Le CN, avec les tarifs, on sait, c'est peut-être pas la première entreprise qu'on penserait qui va bien, plus 10% cette année aussi. Donc, cette rotation là, du secteur technologique vers les titres un peu plus traditionnels semble favoriser là, plein d'entreprises un peu plus normal, si on veut, ou un peu plus diversifié. Du côté du marché américain, le S&P 500 est en baisse de 1,5% cette semaine. Le Nasdaq, 2,3%. Toujours cette rotation là, du secteur technologique vers les autres secteurs. Je suis allé fouiller un peu du côté du fameux Mag 7, là, les 7 magnifiques. Apple est en baisse de 3%, Google est en baisse de 3%, Tesla en baisse de 9%, Amazon en baisse de 13%. Meta en baisse de 3, Microsoft moins 18, donc l'ensemble du Mag 7 là, est en baisse de 7% cette année. Donc, tu sais, tout le monde en avait que pour l'IA, mais tu sais, faut toujours faire attention de demeurer bien diversifié. Il faut être présent dans le secteur, mais il faut être quand même aussi modéré dans nos ardeurs. On avait aussi des attentes de hausse de taux, là, un petit peu, là, je sais que notre stratège en chef, Jimmy Jean, mentionnait au Canada s'attend des hausses de taux. Pour l'instant, là, les obligations du Canada 10 ans, qui ne reflètent pas nécessairement les mouvements de la Banque du Canada, mais des anticipations futures de taux d'intérêt, bien ça, c'est en baisse. On est à 3,2 cette semaine, on était à 3,34 la semaine passée et on était à 3,43 au début de l'année. Donc, ça a un impact positif sur le marché obligataire. Année à jour, l'indice obligataire universel en hausse de 1,7%. Après, un mois et demi, là, donc ça va très, très bien. Comme Bernard de Rome disait, là, si la tendance se maintient, là, le marché obligataire...
Je pense que tu as dit la même chose.
C'est ça. Donc, là, on espère que la tendance se maintient avec ça.
Tu aimes bien Bernard de Rome. Merci beaucoup, Martin, pour la mise à jour. Pour faire suite à notre sujet de la semaine passée, les 5 pièges financiers à éviter pour les couples, on reste dans la même thématique du couple, du droit et de la planification et nous allons parler de régimes matrimoniaux. C'est un sujet ultra concret pour protéger ce qu'on a bâti ensemble. Et pour nous guider aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir, encore une fois, Caroline Marion, notaire, fiscaliste et planificatrice financière chez Desjardins. Merci beaucoup, Caroline.
Mais merci à vous de m'inviter, ça me fait plaisir d'être là.
C'est un sujet qu'on a déjà regardé sur notre balado, mais Caroline, c'est la spécialiste là-dessus. Alors, on va commencer par les bases. Quels sont les différents régimes matrimoniaux au Québec?
En fait, il y en a deux présentement dans le Code civil du Québec qui sont bien décrits, c'est-à-dire la séparation de biens et la société d'acquis. À ça s'ajoute une multiple... En fait, beaucoup d'autres types de régimes parce que on a d'abord la communauté de biens qui, héritée du droit français, s'est appliquée jusqu'en 1970 ici au Québec. Fait qu'il y a encore des couples qui sont mariés en communauté de biens. Sinon, il y a tous les gens qui ont un régime matrimonial étranger. J'entends par là, évidemment, c'est pas en lien avec le lieu où on a célébré le mariage plus que le lieu où on habitait au moment où on a célébré le mariage. Donc, si on a des couples, par exemple, qui se sont mariés en France puis ensuite ont immigré ici au Canada, ils ont un régime matrimonial français. Donc, ça comprend des règles bien différentes de celles qu'on a ici. Et c'est pour ça qu'il faut tenir compte de ces aspects-là. Dans le reste du Canada, juste l'autre côté de la frontière, en Ontario ou Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de régime matrimonial. C'est pas un concept qu'on connaît. Donc, il y a des lois qui sont applicables aux couples mariés et on va les traduire comme étant un régime matrimonial quand on arrive au Québec puis qu'on a besoin qu'on ait une séparation, un divorce ou un décès qui survient.
Est-ce que tu peux nous définir un peu ces régimes matrimoniaux? C'est quoi la différence entre un et l'autre?
Comme société d'acquêt ou séparation de biens,
Oui.
là, c'est surtout les deux principaux,
Certainement.
là.
Ben, en fait, c'est vraiment l'opposé l'un de l'autre. Le principe, c'est que en séparation de biens, on est séparés quant à nos biens, donc on n'a rien à partager. On ne partagera rien en cas de séparation ou de décès. Essentiellement, ce qu'on se dit, c'est tes affaires, c'est tes affaires, les miennes sont les miennes, puis on mélange pas ça. Alors qu'en société d'acquêt, essentiellement, tout ce qui va être acquis pendant le mariage par un ou par l'autre aura à être partagé en valeur éventuellement en cas de séparation ou de décès, valeur qui va se calculer là, autant actif que passif. Okay? Donc, on peut partager des dettes en régime matrimonial et essentiellement, ce partage-là va se faire pour qu'il y ait une équité entre les deux conjoints. Donc, si les deux colonnes sont sensiblement équivalentes, il n'y aura pas une grosse créance qui va être due d'un à l'autre. Par contre, s'il y a vraiment un gros écart de valeur, si d'un côté, on a une entreprise privée, par exemple, et qu'on a très bien réussi et que ça a pris énormément de valeur pendant le mariage, mais on peut se retrouver à devoir à notre conjoint qui n'était pas impliqué dans l'entreprise un montant d'argent correspondant à la valeur, la moitié de la valeur, si on veut, de cette entreprise-là.
Parfait. Fait que nous, on est mariés en société d'acquêt, je crois bien.
Exact. Donc, quand on fait,
Je valide.
si on fait pas de choix, ben, par dépôt, c'est la société d'acquêt.
Parfait. Et c'est quoi le patrimoine familial et en quoi c'est différent des régimes matrimoniaux?
Ben, le patrimoine familial, c'est un régime obligatoire qui se superpose, qui va par-dessus les régimes matrimoniaux. Et donc, essentiellement, quand ça a été créé, ça en 1989, et ça continue d'exister depuis, on a un petit peu substitué la volonté des gens de loi à celle des couples en disant, même si vous avez fait des choix réfléchis dans un contrat de mariage ou que vous avez adopté le régime légal parce que vous n'avez pas fait de contrat de mariage. Essentiellement, nous, on va venir vous dire qu'il y a certaines choses qu'on veut absolument qu'ils soient partagées pareil. Parce que je disais tout tantôt, séparation de biens, c'est, il n'y en est pas question, on ne sépare rien. Fait que c'est surtout ceux mariés en séparation de biens que ça affecte directement le patrimoine familial. Mais tous les couples y sont assujettis, même ceux mariés en société d'acquêt. Donc, essentiellement, ce qu'on nous dit, c'est que les biens qui composent le patrimoine familial, les résidences de la famille, les biens meubles qui les meubles et les ornent, les résidences, toutes les résidences, les véhicules automobiles qui sont utilisés pour le déplacement de la famille et tout ce qui est régime pour la retraite, donc REER, fonds de pension, etc., sont des biens qui seront partageables, encore une fois, en valeur au moment d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès. Et ce partage-là a lieu, peu importe mon régime matrimonial, sur cette série de biens-là. Ce qui fait que le régime matrimonial s'applique, dans le fond, finalement, sur les autres biens qui ne font pas partie du patrimoine familial. Donc, par exemple, le CELI, parce que le CELI, c'est pas un régime pour la retraite. Donc, le REER est partageable au niveau du patrimoine familial, le CELI est partageable au niveau du régime matrimonial. On parlait tantôt d'une entreprise privée, mais l'entreprise privée, elle est dans le régime matrimonial, elle ne fait pas partie du patrimoine familial. Mais tout ce qui est dans le patrimoine, c'est obligatoire de le partager, et par la suite, ben, c'est le régime matrimonial qui embarque. Les couples qui sont mariés pourraient changer ou modifier ou moduler leur régime matrimonial, mais ils ne peuvent pas toucher au patrimoine familial qui, lui, est obligatoire pour tous.
Donc, on entend beaucoup parler de ce nouveau statut-là, l'union parentale. Est-ce que tu peux en parler? C'est quoi au juste?
Oui, ben écoute, l'union parentale, c'était pour venir corriger ce qu'on voyait comme étant une grande lacune, à savoir que les couples mariés ont cette protection légale qui découle du patrimoine familial et du régime matrimonial en cas de séparation ou de décès, alors que les gens qui sont en union de fait ont, on le sait, on le répète depuis toujours, aucune protection en vertu du Code civil. Là, on s'est dit, est-ce qu'on impose ça à tout le monde ou pas? Et la réponse du législateur a été non, on va imposer ça aux couples qui ont ensemble un ou des enfants. Essentiellement, on considère la famille créée par la présence d'enfants comme déclencheur à des règles de protection, si on veut, entre les conjoints. Et donc, ce n'est que pour les couples conjoints de fait qui ont eu ou auront des enfants après le 30 juin 2025, qui sont assujettis automatiquement au régime de l'union parentale. Donc, qu'ils le veuillent ou non. Puis là, on va se le dire, là, conjoint de fils, c'est déjà une notion un peu floue. Hein? Au niveau de l'impôt, c'est 1 an. Au niveau de certaines lois québécoises, c'est 3 ans de vie commune. Ici, au niveau du régime d'union parentale, il n'y en a pas de délai. La minute qu'on s'affiche, si on veut, comme un couple, et qui plus est, si on a un enfant ensemble, il y a une présomption qu'on est en couple à ce moment-là et on va être assujetti au régime d'union parentale. Le régime d'union parentale, dans le fond, va me créer l'équivalent d'un patrimoine d'union parentale qui ressemble beaucoup au patrimoine familial, mais pas tout à fait pareil. Donc, il y a des petites différences. Entre autres, les régimes de retraite n'en font pas partie. Mais les résidences de la famille, les meubles blancs, les véhicules automobiles, ça, oui, on les inclut. Et ça aussi, ça va être sujet à un partage en cas de séparation ou en cas de décès. L'autre chose qu'on exige des conjoints en union parentale, ou plutôt qu'on impose aux conjoints en union parentale, c'est que s'ils ne font pas de testament, à partir de maintenant ou à partir du moment où ils se qualifient, ben, le conjoint devient un héritier légal à un tiers, comme le conjoint marié l'était déjà. Donc, si je ne fais pas de testament, mon conjoint va au moins avoir droit, en cas de décès, au partage de l'union parentale et à hériter d'un tiers de la succession une fois ce partage-là fait. Si je veux qu'il hérite de plus, je vais faire un testament. Si je veux moduler les choses en termes de régime d'union parentale, je peux aussi le faire, comme les couples mariés, en signant un contrat d'union parentale chez le notaire.
Donc, pour les couples mariés, c'est similaire aussi, j'imagine. Il faut signer un contrat de mariage chez le notaire pour moduler ou pour changer.
Ça se fait-tu après le mariage, ça, Caroline?
C'est possible de faire un contrat de mariage après le mariage, bien que ce soit l'idéal de le faire avant le mariage. La raison est simple. On le disait tantôt, la société d'acquis nous est imposée si on n'a pas fait de choix. Donc, par la suite, si on veut changer de régime matrimonial, il faut d'abord dissoudre le régime existant pour pouvoir entrer dans un nouveau régime matrimonial. Si c'est très, très proche de la date du mariage, la dissolution va être très simple à faire parce qu'il n'y aura pas eu, on n'aura pas eu le temps d'accumuler des biens. Mais si on se retrouve 5 ans après le mariage, puis qu'on se dit, oh, là, on est marié en société d'acquis parce qu'on n'a rien fait à l'époque, on aimerait ça changer ça pour la séparation de biens, ça va, on va chez le notaire, mais il va falloir d'abord dissoudre la société d'acquis qui a existé pendant les 5 dernières années. Et ensuite, on repart sur des nouvelles bases avec un régime de séparation de biens pour l'avenir. Ça peut avoir des conséquences un peu inusitées parce que quand je fais ça, je vous ai dit tantôt qu'il y avait toujours le patrimoine familial qui embarque par-dessus, mais là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de divorce, puis il n'y a pas de décès. Fait que le patrimoine familial n'est pas déclenché quand j'arrive dans cette situation-là. Fait qu'on va partager les biens en fonction de la société d'acquis pure. Et donc, on va revenir chercher les résidences de la famille, ouais, toutes ces choses-là. Mais dans la société d'acquis, on va faire un partage en valeur. Il y a un des conjoints qui va devoir une somme d'argent à l'autre. Oui. Parce que c'est toujours ça le principe. À ce moment-là, le conjoint pourrait dire, ben moi, j'y renonce, je le veux pas. Mais en même temps, c'est un peu sournois parce que si j'y renonce, je le veux pas, on adopte la séparation de biens pour l'avenir, puis que finalement, on se revire de bord, puis non, on se sépare, bien là, j'ai laissé de l'argent sur la table.
Ouais. C'est trop tard, là. Ouais.
Fait que c'est des discussions qui sont pas super le fun à avoir, de changer de régime en plein milieu de l'union, mais si votre couple est fort, puis si vous savez ce qu'il y en est pour la suite, bien, ça peut être...
Mais j'ai pas de plan ça pour fait. Ça, Martin.
OK, merci. C'est correct. tu sais, cas pratique, là, on a plein de clients dans 2 cas. Donc, dans le premier cas, le conjoint de fait, ils n'ont pas d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, 25-30 ans, pas d'enfant, sont ensemble depuis longtemps, ils s'aiment, là, mais on fait quoi?
Ben, en fait, là, il n'y a rien qui s'impose à eux de par la loi. C'est ça qu'il faut retenir. Ce qui veut dire que pour les fins du Code civil, ils sont considérés comme des frères et sœurs ou des étrangers ou des amis. OK. Donc, il n'y a rien d'imposé, mais ils peuvent décider de se moduler des choses entre eux. Pour ce qui est de l'impact d'une séparation, on va parler d'une convention d'union de fait. C'est ça qu'ils pourraient venir rédiger. Ce n'est pas obligatoirement avec un notaire, donc ils pourraient faire ça même sur une napkin, sur un coin de table entre eux autres, décrire leurs ententes. Idéalement, on les écrit de façon à ce qu'on ait une preuve de ce qu'on avait d'intention de partager ensemble. Mais sinon, on peut aller chez le notaire après un certain nombre d'années. Souvent, l'idée, c'est d'y aller par petits morceaux. Donc, au fur et à mesure qu'on s'entend sur des choses, on l'ajoute sur un document. Puis quand on est rendu à en avoir plusieurs, là, on s'en va voir notre notaire, puis on dit, peux-tu me mettre ça dans un beau contrat notarié, là, pour que, une fois pour toutes, on ait quelque chose d'officiel et de fait. Évidemment, pour les conjoints de fait, il va falloir aussi réfléchir à tous les autres documents juridiques de protection. Donc, le mandat de protection, parce qu'on n'a pas automatiquement sur notre conjoint des droits d'agir en cas d'inaptitude. On va vouloir aussi rédiger un bon testament entre conjoint de fait, ce qui ne veut pas dire qu'on va faire hériter le conjoint, mais c'est juste de ne pas laisser ça au
Ouais.
code civil de décider qui vont être mes héritiers légaux, parce que des fois, je ne veux peut-être pas tout donner à mon conjoint, mais j'aimerais peut-être pas non plus tout y enlever.
Puis l'autre cas qu'on voit de chez nos clients, on voit ça des fois des clients un petit peu plus âgés, là, sont jamais déclarés comme conjoints à l'impôt. Tu sais, ils font chacun leur impôt de leur bord, donc ils sont pas conjoints de fait au niveau fiscal. Puis là, ils disent, ah, là, tu sais, je devrais-tu me déclarer conjoint de fait? Comment ça marche? Tu sais, c'est un décès, là. J'ai toujours fait mes impôts séparés. Qu'est-ce qui arrive avec le régime de retraite et tout ça? C'est quoi la réponse?
Quelle belle question. La première des choses, c'est que c'est pas un choix de se déclarer ou non à l'impôt. Fait que ça, il va falloir se le dire une fois pour toutes, là, c'est même si les gens disent on a choisi de pas se déclarer, la réalité, c'est est-ce que tu es conjoint, est-ce que tu te qualifies, est-ce que tu rentres dans la définition? Si la réponse est oui, que tu fais de ne pas te déclarer comme conjoint, c'est pas correct. Okay? Mais il y a
OK.
quand même personne qui va te courir après parce qu'on est dans un système d'autocotisation. Donc, c'est nous qui devons déclarer la situation telle qu'elle est. Par contre, si je veux venir profiter des avantages qui viennent avec le statut de conjoint, comme le fait entre autres de pouvoir, au moment du décès, rouler des REER, par exemple, rouler d'autres biens, ou même en cours de régime ou en cours de vie, si je veux me transférer des biens entre conjoints, je peux le faire sur une base de roulement quand on est reconnu comme tel. À partir du moment où on ne l'a jamais déclaré, ben ça devient plus difficile de venir profiter de cet avantage-là sans corriger la situation. Donc, idéalement, des conjoints qui se rendent compte que oui, ça fait des années qu'ils sont conjoints puis qu'ils auraient dû se déclarer comme conjoints puis qu'ils l'ont pas fait, la première chose à faire, c'est d'évaluer s'il y a un impact. Puis, dans beaucoup de cas, ils vont être surpris, mais il y en a pas d'impact. Au jour le jour, le fait de se déclarer comme conjoint, oui, va falloir tenir compte du revenu du conjoint pour l'application de certains crédits, mais pour la majorité des gens qui travaillent puis qui ont un revenu, il y a très peu d'impact du fait, puis même souvent pas du tout, du fait de se déclarer comme conjoint. Personne ne va rien perdre dans l'équation et on va pouvoir par la suite avoir un statut qui est régularisé. Advenant que le décès arrive avant qu'on ait fait cette démarche-là, donc avant de décider volontairement d'aller se déclarer comme conjoint, je pourrais quand même réclamer des sommes ou réclamer des droits comme conjoint parce que la situation est telle que je suis conjoint. Donc, la loi va reconnaître ça, sauf qu'évidemment, ça peut avoir des impacts. Je peux être obligée de reproduire des déclarations d'impôt pour les 3, 4, 5 dernières années précédentes pour venir prévoir ce statut-là, si on veut, avec les conséquences que ça peut entraîner. Mais comme je le disais, souvent, il n'y en a pas de conséquences. Donc, souvent, il y a très peu ou pas du tout de conséquences, mais on reproduit quand même pour venir déclarer la situation de fait. Et ensuite, on peut profiter des avantages, qui s'offrent au conjoint en cas de décès.
Donc, bonne idée de parler à son comptable, peut-être, avant de.
Ouais, moi, je retiens surtout que ce n'est pas un choix, c'est tes conjoints de fait.
Ouais.
Donc, tu dois
C'est
te
ça.
déclarer ainsi, là,
C'est
sinon, tu ne respectes pas la réglementation.
Puis, Caroline, pourquoi c'est tout important, ça, toute cette discussion d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous le dire?
Oui.
Ça,
C'est important parce qu'en fait, il y a certaines règles de certains régimes qui vont venir affecter des décisions que je vais prendre, puis qui font que je n'ai pas la pleine liberté de poser des gestes que je veux poser. Je vais donner un exemple qui est peut-être un peu loin de notre quotidien, mais encore là, peut-être pas. Peut-être que certains de vos clients sont directement visés par ça. Saviez-vous qu'il y a une règle qui vous empêche, justement, comme conjoint marié en société d'acquis, de donner des biens acquis sans le consentement de votre conjoint? Donc, ça, c'est une règle qui est très particulière, qui s'applique aux gens qui sont en société d'acquis. Fait que si, par exemple, Martin, toi, tu disais, pour des fins de protection d'actifs, il me semble que je me créerais une fiducie de protection d'actifs, puis j'enverrais certains des biens dans cette fiducie-là, bien, tu ne pourrais pas le faire tout seul de ton côté. Il faudrait que tu demandes à Sarah de venir signer un document à l'effet qu'elle est consciente puis qu'elle t'autorise, entre guillemets, ou en fait qu'elle est d'accord que tu donnes des acquis à ta fiducie pour les fins de ta protection.
Moi, j'entends les clients dire, ben là, c'est à moi le bien, là, que, pourquoi ça rassigne, mais c'est pour la protection du conjoint moins fortuné, là, de toute façon.
Ben, même pas moins fortuné, c'est juste que tu sors un bien de quelque chose qui devrait être partageable éventuellement. Fait que ça prend son consentement pour que tu puisses le faire. Si tu le vends, il n'y en a pas d'exigence de ce côté-là. Mais le fait de le donner à une fiducie, c'est parce que c'est un acte à titre gratuit. Ça serait la même chose si tu décidais que tu donnais quelque chose à des enfants. Faudrait que tu aies le consentement du conjoint. Évidemment, quand on parle de biens meubles, quand on parle de tu sais, les biens de la chambre des enfants qu'on leur donne quand ils partent de la maison, on va se le dire, là, il n'y a pas,
encore, y a pas de registre de ça.
Il n'y a pas de registre de ça. Mais quand on parle de transactions plus costaudes, comme des actions de société privée, par exemple, qu'on voudrait donner en fiducie pour les protéger puis éventuellement contrôler leur sort, bien là, si on n'a pas le consentement du conjoint, on peut se retrouver dans une situation où notre transaction n'est pas valide.
Ben, super intéressant, Caroline. Merci beaucoup. Je pense qu'on pourra en parler longuement. Les clients vont sûrement avoir des questions et si on a besoin de toi, on va les refiler. Merci infiniment pour ta présence ce matin et merci à vous tous pour votre écoute. Si vous souhaitez revoir votre stratégie patrimoniale, successorale ou obtenir un second regard sur vos documents, testaments, contrats, etc., notre équipe, Laurie, Michel, Mathieu, Martin et moi, est là pour vous accompagner. Merci pour votre écoute. De cette semaine, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de À l'écoute des investisseurs.